Campus 88.3.
Est-ce que vous êtes bien sûr de la fréquence ?
Certain.
C'est pas facile avec 4 cordes, en plus je connais pas la suite.
Tu veux pas nous jouer autre chose ?
Ah ouais, Satisfaction par exemple.
Satisfaction.
Que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
Un ténor qui pousse un contrute est devenu une sorte de figure obligée dans un certain nombre d'opéras, notamment au XIXe siècle. Le phénomène est spectaculaire, il est salué, il est acclamé, parfois moqué, bref, il fallait consacrer un plein numéro de métaclassique à la curieuse manie de contruter qui s'est notamment propagée à partir des années 1820. D'un point de vue physique, un contrute n'est jamais qu'une note à 525 Hz. Mais en termes de performance vocale, le contrute est souvent exhibé comme une acrobatie qu'il faut tellement valoriser qu'il est parfois ajouté sans qu'on de la vie au compositeur et surtout allongé pour montrer l'ampleur de son coffre, au point que l'orchestre vienne à s'arrêter pour ce qui ressemble à une pause pipi, pour reprendre l'expression de Roland Mancini. Auteur de nombreux ouvrages sur l'art lyrique et notamment du Que sais-je sur l'art du chant paru aux presses universitaires de France en 1969, Roland Mancini a assisté à plus de 10 000 représentations d'opéra tout au long de sa vie et s'est occupé de rassembler une cinquantaine de contrutes rien que pour nous en offrir une sorte de contre-histoire, un métaclassique en enregistré à son domicile à Villeneuve-d'Ornon, près de Bordeaux. Bonjour Roland Mancini.
Bien, nous avons été présidés par Caruso pour les Français. Bon, c'est le plus grand ténor du siècle, ça se discute même pas. Donc là, c'est réellement lui qui chante. Maintenant, le contrute de 3h30, c'est lui.
On a l'impression que l'opéra s'arrête pour écouter le contrute, oui, c'est ça.
Alors donc, nous sommes là pour parler de contrute. Qu'est-ce que c'est qu'un contrute ? Un contrute, c'est quelque chose qui est contre, comme il y a une contre-offensive, une contravention, un contre-ordre et tout ça. Il est contre un ut normal. L'ut normal, c'est au milieu de la voix de ténor, do, que je peux pas faire. L'ut normal, c'est salut, demeure chaste et pur. Et donc, il est contre, c'est celui qui est proche, mais à l'autre bout de la tessiture humaine. Donc, alors, faire un contrute, c'est-à-dire faire une note sur 525 Hz, c'est bien 525.
Si on est à 440 pour le la, oui.
Donc n'importe qui, chanteur, violoniste, boulanger, peut faire une note. On va avoir deux exemples. Ils ne sont pas des chanteurs d'opéra, mais ils ont dans la voix un ut, il faut un ut.
Le rayon de lune vaut le plus beau décor.
Et j'envoie Mexico.
Mexico. Mexico, tes femmes sont à la
bon, naturellement, vous avez reconnu Tino Rossi, très 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 jolie voix, mais qui naturellement n'a jamais chanté un opéra sur scène. On n'avait pas encore inventé le micro et ce qui se fasse aujourd'hui pour enregistrer les chanteurs. Donc, Luis Mariano, vous l'avez reconnu aussi. Bon, il est loin d'avoir la qualité de Tino Rossi, mais il a émis une note sur 525 Hz. Bon, tout le monde est content. Bon, on va parler d'autre chose naturellement aujourd'hui. On a quelques beaux exemples.
Alors, beaux exemples, on peut prendre pour commencer la fin de La Favorite enregistrée en 1950.
Yeah. Voilà, alors, vous avez entendu Distref, alors en 1950, à Mexico, dans la dernière note de la Favorita. Nous avons entendu le ténor Helge Rosenvinger, un Danois, ça aboie toujours un peu, c'est normal, dans un couplet d'un air un peu guerrier, d'un opéra russe, Ruslan et Ludmila, l'opéra de Glinka. Bon, spectaculaire. C'était quelque chose, Rosenvinger, qui a chanté jusqu'à sa mort à 75 ans. Ensuite, nous avons eu Alessandro Bonci, qui est anti-Caruso. C'était le ténor ultra distingué, ultra raffiné.
C'est en 1904
c'est ça, oui. Et alors, en fait, il nous fait un très beau contrute dans la partition, c'est un luth dièse. Mais à l'époque, les ténors avaient toujours peur des aigus. Les ténors qui faisaient des luth dièse sur scène devant le public, à l'enregistrement, donc c'est abusé. Donc, comme ça, c'est un contrute. Au lieu d'être un contrute dièse, on reste dans le chanteur aigu. Et puis, alors, vous avez le dernier champion de la deuxième moitié du siècle, Alfredo Kraus, qui était vraiment cette voix extraordinaire dans le grave, dans l'aigu, ut, ut, dièse, ré. Il en faisait comme là dans une chanson espagnole, Alegría. Bon, et vous entendez un magnifique contre-ré pour terminer.
Alors, on pourrait se rappeler ce qu'il y avait encore un peu avant 1914, peut-être ?
Bon, quand l'enregistrement est arrivé, les ténors qui avaient une grande voix voulait se faire entendre. Alors, même si c'était une chansonnette très simple, il hurlait le contrute. Alors, nous avons deux exemples de contrute. Il y a, au début de Guillaume Tell de Rossini, il y a une petite chanson de pêcheur qui est en coulisses, qui s'amuse, qui n'est pas du tout celui à faire des héroïsmes. Mais alors là, nous avons des ténors qui vous hurlent la chansonnette, que ça en est amusant. Alors, nous allons entendre Valentin Jaume et Augustello Affre. Et vous avez alors là un ténor espagnol qui a fait l'immense carrière, Hipólito Lázaro, qui était un champion des contrutes et des contre-rés. C'est pas toujours très beau, mais c'est une grande carrière, on le considérait comme un rival de Caruso. Donc on l'entend dans Les Puritains avec son contre-ré que vous jugerez comme vous voulez. C'est spectaculaire, bien sûr. On aime ou on n'aime pas. C'est comme la choucroute.
Hein. Bon, enfin, ça veut dire qu'il y en a qui aiment et que ça correspond à certaines attentes à un moment donné.
Énorme. Ouais. J'ai connu un vieil amateur qui courait l'Espagne pour le voir. Pour les aficionados de l'époque, c'était vraiment l'idéal. Bon, redescendons sur Terre et à l'après-guerre.
Et l'après-guerre, puisque vous avez commencé à aller beaucoup dans les festivals d'opéra dans les années 50, Roland Mancini. Qu'est-ce qu'attendaient les habitués de cette époque?
Dans les années 50, naturellement, le répertoire avait diminué des deux tiers. On avait bombardé tous les théâtres, il n'y avait plus rien, on faisait une saison. Il n'y avait plus beaucoup de chanteurs pour faire des prouesses de ce genre-là. Alors disons, les aficionados, le giornisti en italien, qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce qui restait comme opéra du répertoire avec des beaux contrutes pour se faire plaisir? Il y avait la Bohème, il y avait Faust, il y avait le Trouvert, il y avait la Favorite.
Presa!
ils ont droit à une des annonces. Nous avons entendu Giuseppe Lugo, un ténor italien qui est venu faire carrière en France entre 30 et 1939. C'était la bohème. Dans Faust, à nouveau Di Stefano, bon, extraordinaire, dans un concert en direct naturellement en 1950, qui se permet même de filer le contre-ute. Nous avons entendu dans l'autre ouvert Tamagno, qui était le créateur d'Otello avec une voix de tonnerre. Et au bon tempo, comme du temps de Verdi, pas les cochonneries que fait aujourd'hui Riccardo Muti, qui transforme cette air en valse-musette à toute berzingue. Piano dans l'écriture de Verdi. Nous en venons à la favorite que Donizetti a écrite pour la France, avec l'air final, oh je suis pur, d'abord César Vanzani, l'immense ténor corse, et ensuite en version italienne, qui est peut-être la version primitive, par Roberto D'Alessio, qui était considéré comme un ténor di grazia, mais le ténor de grâce, qui pouvait faire un contre-ute également, Roberto D'Alessio, et puis pour terminer, Gustave Boitiau. Gustave Boitiau qui est toujours vivant, 97 ans, s'il nous écoute, salut Gustave. Alors, Asile héréditaire dans Guillaume Tell, avec une déterminaison un peu spéciale, car dans la partition, c'est une note rapide qui dure une croche, un mezzo forte. Mais naturellement, il ne fallait pas demander à Gustave Boitiau de faire un mezzo forte, mais enfin... Une sacrée voix qui a arrêté la carrière un peu tôt parce qu'il était en très mauvaise santé du point de vue poumon. Voilà.
Donc là on a des contre-utes qui viennent d'opéras du 19e siècle. On peut en faire dans des opéras antérieurs.
Oui, quand même. Il n'y en avait pas tellement parce que ça n'était pas quelque chose de spécialement qu'on attendait. Un ut, c'est ce machin qui se balade à 525 Hz. On l'en met dans la partition. On le chantait forte, on le chantait piano. Mais alors, on a perdu l'habitude de ça chez Rameau parce que depuis que les baroqueux existent, comme ils ont pas de ténor capable de faire un contre-ute, ils nous font croire que à l'époque de Rameau, les ténors étaient comme ça, ils chantaient pas les contre-utes à pleine voix. C'est faux. Il y avait des ténors, on a les contre-utes d'époque, il y avait des ténors qui chantaient ça à pleine voix. Chez Gluck, qui aimait plutôt le Urlando Gluck, mais il a dans ses opéras de jeunesse des utes ou des rés qui se baladent comme ça au milieu d'une vocaliste, pas important. Mozart a écrit un seul contre-ute pour ténor dans Mithridate. Bon, je ne l'ai pas pris, ça n'est pas un événement. Et c'est plutôt après qu'avec Rossini, qui détestait les contre-utes, mais qui en a écrit beaucoup, c'est là. Alors après ça, surtout Bellini, Donizetti, il y en a beaucoup. Avec Verdi, déjà, on va le redire, ce délai, il y en a très peu. Puccini, il y en a très très peu, mais quand même, dans son dernier opéra, juste avant sa mort, en 1925, il met une petite cadence ad libitum avec un magnifique contre-ute. Donc, on va entendre Castor et Pollux de Rameau.
Donc là, un contre-ute de 1741.
C'est ça, 1741. Ouais. Et Nicolas Guenda, qui était un ténor musicien, qui savait chanter, il n'avait pas une voix immense, mais enfin, pour le XVIIIe siècle, c'était quand même un grand interprète. Et puis, pour tout en doute, on aura naturellement Franco Corelli, qui se régale.
Donc là, Roland Massini, ce qu'on a entendu, Guetta, puis à l'instant Corelli, c'est effectivement des contre-utes de pleine poitrine, alors que pour le Rameau, on a parfois tendance à le faire avec une voix de fossé. Mais c'est quoi la différence ?
C'est la voix de fossé, c'est une blague, c'est ce qu'on met quand on veut pas chanter, quand on va parler plus fort. C'est pas sérieux, si je parle comme ça dans une conférence, tout le monde va rigoler. Donc, un chanteur qui fait des notes comme ça, tout le monde devrait rigoler. Car aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas honte et qui chantent comme ça. La voix humaine est un mélange de résonance qu'on appelle lourde ou légère. Résonance lourde. Alors, c'est ce qu'on peut appeler la voix de poitrine, l'émission de poitrine, plutôt que la voix. Et légère, c'est l'émission de tête. Alors, nous avons ici un ténor, Pierre Sagardiluz, qui va vous montrer la différence entre une note en fossé, comme ça, une note bien émise, avec un mélange de résonance de poitrine et de tête, et puis un autre exemple à plat tube. Oui, alors là, c'est malheureusement ce qu'on entend quelquefois à la radio. Alors maintenant, la même chose, avec un bon mélange de poitrine et tête.
Alors je le refais.
Bien. Et alors maintenant, un truc à plein-tu, pas forcément sur la même note, sur un si bémol si vous préférez. Bravo. Alors, Rossini qui aurait dû mettre sur son blason, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Parce qu'il disait qu'il avait horreur des aigus à pleine voix. Mmh. Et je crois qu'il l'avait, puisqu'il y a toutes les légendes, quand un ténor dont nous allons parler, Dupré, est venu chez lui, lui faire les contrées de Guillaume Tell, il s'est levé pour regarder s'il n'avait rien cassé dans sa galerie d'objets rares. Bon, mais seulement, il en a écrit pour les chanteurs, tout en disant qu'il détestait ça. Alors, ce qu'il y a, il faut les faire quand il les a écrits ou quand ils sont souhaitables dans une partition. Ce qu'il ne faut surtout jamais faire, c'est terminer un air par un contrut aigu. Alors, naturellement, les chanteurs voient une cabalette, mettons, qui se termine par sol, do. Et qu'est-ce qu'ils font? Sol, boum! Et ils font le do dans l'aigu. Ça, c'est l'anti-Rossini. Alors, je suis désolé de passer comme exemple le plus grand ténor actuellement en exercice avec des contrutes. Là, il termine la cavatine d'Alba Viva au début du Barbier de Séville par le contrut aigu. C'est magnifique, mais il faut le fusiller. Bravo Florez, mais c'est pas bien. Même si c'est magnifique, il est interdit de faire ça chez Rossini.
Parce que Rossini a bien écrit, c'était pas un contrut, écrit à la fin, c'était un ut de.
Il faut pas terminer en haut. Alors, effectivement, dans les opéras comiques de Rossini, Barbier, donc l'italienne à Alger, et Cendrillon, et il y a des contrutes, mais qui se baladent comme ça, qui ne sont pas ostentatoires. Donc, il ne faut pas en faire des arrêts avec un point d'orgue au-dessus. Mais alors, Rossini, qui ne voulait pas ça, tout de suite, très peu de temps après le Barbier, il en écrit dans ses opéras sériens, écrits pour Naples. Dans La Donna del Lago, il y a l'entrée du méchant, parce que dans les opéras de Rossini pour Naples, il y a le bon et le méchant. Alors, le méchant, théoriquement victorieux, pas toujours, il a une bonne voix comme ça, et le faible, amoureux transi, il a une voix là-haut. Bon, puis finalement, même le poids, il grimpe aux contrutes. Alors, par exemple, Chris Merritt, qui a été un événement dans les années 80-90, Chris Merritt, dans La Donna del Lago, il entre avec pom, 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 et puis, pam! Il y a un ut comme ça qui est écrit. Ben, il est écrit pour être chanté forte. Alors, on n'imagine pas cet ut tout seul, hein? Ça n'existe pas. Chris Merritt, dans La Donna del Lago. Bien, alors ça, on peut pas imaginer le chanter piano. Il a montré qu'il avait du grave, un grave baritonnant, mais il avait le contrut. Bon, Chris Merritt a été un événement en 87, c'était extraordinaire. Bon, et il pesait 140 kilos. Quand il a perdu quelques kilos, il a perdu quelques décibels. Bon, Rossini écrit ses contrutes un petit peu à droite à gauche, et puis arrive Rossini à Paris pour ses derniers opéras, et il y a un ténor extraordinaire dont on va un petit peu reparler, qui est Adolphe Loury, qui crée ses opéras légers et ses opéras durs. Donc les deux derniers opéras de Rossini écrits à Paris en 1828 et en 1829, ce sont Le Contori et Guillaume Tell. Et c'est le même Adolphe Loury qui a créé les deux rôles, le rôle du comte Horry et le rôle de Arnold. Alors dans Le Contori, c'est un petit rigolo qui séduit les filles, il se déguise en ermite et il fait la cour aux filles dans le confessionnal. Donc il a un petit air gentil au début, que l'on écoute dans la voix de Rockwell Blake.
La paix du ciel, mes frères.
Et alors, un an se passe et on arrive à Guillaume Tell.
Son dernier opéra.
Voilà, Guillaume Tell. Donc, pourtant, à la création, c'est le même chanteur, Adolphe Loury, qui chante d'une manière légère, comme vous avez entendu, et qui va chanter beaucoup plus macho, plus ou moins macho, on va y revenir, pour le rôle d'Arnold qui libère sa patrie de l'oppresseur allemand. Alors, quelques exemples de du ténor avec Tony Poncet. Bon, Tony Poncet, c'était un phénomène d'un mètre 60, mais qui avait des aigus et suraigus dans la voix. Alors, le voici d'abord en duo avec René Bianco dans le duo du premier acte.
On peut dire que les contrutes sont plus dramatiques, oui.
Bon, et alors, le même Tony Poncet dans Asile héréditaire, que vous avez entendu d'ailleurs par son grand ami Boccio, ils ont été couronnés à un même concours de ténor en 54, et la même chose, il allonge le contrut pour la dernière fois, écoutons-le, parce que quand même, ça a été quelqu'un qui a fait une centaine de Guillaume Tell sur scène, je pense que c'est le dernier à avoir fait ça. Pas de tricherie, c'est sur scène, c'est pas un disque de studio raccommodé par les ingénieurs du son. Alors, dans Guillaume Tell, c'est pas l'air final, mais enfin c'est la victoire de Arnold qui va tuer l'oppresseur après Ami, secondez ma vengeance. Et alors là, Chris Merritt, c'était en 87 à Cagliari, c'était un congrès entier sur Guillaume Tell, c'était extraordinaire. Alors voici son dernier envol avec une série de contrutes. C'était impressionnant. Vous savez, excusez-moi de parler de moi, j'ai vu plus de 10 000 spectacles lyriques dans ma vie, de 1947 à 2020. Eh bien, cette représentation de Cagliari, c'est une des 5 que j'amènerai là-haut quand je partirai. C'était extraordinaire. Quand il l'a repris à la Scala avec Mouti, qui ne connaît rien à la musique, c'était pas ça. Donc je vous ai mis ce que j'ai enregistré, One Black Place. On était au fond du théâtre.
Et c'est vous qu'on entend parler par-dessus.
On s'est tous levés, tout le monde a hurlé. Tant pis pour ce qui restait à faire pour l'orchestre. Mais ce sont des souvenirs qui restent, ça.
Et alors, dans ces années 1820, à Paris, on avait d'autres ouvrages que ceux de Rossini, dans lesquels on trouvait ces contrutes.
L'opéra, c'était quelque chose pour les gens riches, pour les gens qui aimaient la musique, qui écoutaient les quatuors de Beethoven, ils allaient à l'opéra. Puis à l'opéra comique, c'était pour un public bien gentil. À l'opéra comique, il ne fallait pas tuer quelqu'un. Il faudra attendre Carmen à 75 pour voir la mort de quelqu'un sur la scène de l'opéra comique. Donc c'était des histoires d'amour qui se finissaient bien, avec d'excellents compositeurs français comme Boieldieu. Boieldieu était le grand compositeur français du début du 19e siècle. Et La Dame Blanche a été un immense succès. La Dame Blanche, c'est un jeune militaire, George Brown, qui arrive d'abord avec son régiment. C'est assez martial, mais c'est déjà une voix plus bam bam, des aigus de qualité, mais qui sont boum boum. Alors on va entendre Michel Cadieu dans son air d'entrée, à quel plaisir d'être soldat, et après ça il tombe amoureux de cette mystérieuse dame blanche. Et, ah viens gentille dame, on l'écoute d'abord dans ces deux airs.
Donc enregistrement de 1959, donc de cet opéra de 1825.
Oui, Michel Cadieu était encore en troupe à l'opéra de Paris à l'époque, oui.
Pour la paix, la paix, pris de son courage, le ramène dans son village. On dit quel spectacle nouveau, c'est un père, un ami, qui le presse et l'embrasse. Chacun se dit, chacun se dit, c'est lui, c'est l'honneur du hameau. Et sa mère était heureuse, elle attend à venir.
Et maintenant, à la fin de l'opéra, alors il y aura une rêverie, ça s'appelle Rêverie, le même Jean Brown est là, il s'adresse à la mystérieuse dame blanche, et alors ça se termine par un contrut, mais c'est d'une délicatesse extraordinaire. Alors, lorsqu'on va entendre David de Vries, le grand homme dans les années 1920 de la délicatesse, je dois ce disque à mon ami Jean-Michel Jalot. C'est l'occasion de remercier tous ceux qui m'ont dépanné pour les disques, puisque j'avais été dévalisé de tous mes ténors. Alors je dois remercier Bardagy, qui est le grand spécialiste mondial, je dois remercier M. Pernet, mon ami Harry Bay, Johnny Rouette, qui numérise les cassettes, mon ami Odabella, c'est-à-dire Christine Boulanger, voilà, tous les gens qui m'ont aidé à constituer ce que vous entendez aujourd'hui. Donc, écoutons David de Vries.
Et c'est un enregistrement qu'on a écouté dans un tout récent épisode de Métaclassique, l'épisode Ausculté, David de Vries. Roland Mancini, quand vous entendez des trilles, vous tremblez avec l'annulaire comme si vous jouiez du hautbois.
Ah oui, oui, oui. Ah, mais c'est une satisfaction, un trille sur scène, ça doit provoquer des voluptés internes chez l'auditeur. Même pianissimo. Parce que ça, bon, ça c'est un disque de studio des années 1920, mais c'est magnifique.
Mais qui plus est, pianissimo, oui, tout à fait.
C'est quelque chose d'extraordinaire.
Quelques années après, 10 ans après La Dame Blanche, on arrive à carrément un contre-ray en 1836.
Le Postillon de Longjumeau, c'est l'autre disque pour ténor qui peut chanter fort et piano à la fois. Donc Miguel Villabella, qui est un basque qui a fait sa carrière entière en France, donc le Postillon de Longjumeau avec le contre-ray. Donc d'abord Villabella, qui chante comme c'est écrit, le contre-ray en voix de fossé.
Qu'il était bon, qu'il était beau, le postillon de Longjumeau, le postillon de Longjumeau.
Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, le postillon de l'Ostimo. Ah, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, le postillon de l'Ostimo.
Voilà, alors dans le même air, notre ténor danois qui va appuyer d'une façon extraordinaire avec le contre-ray en pleine voix. Alors,
il s'appelle Rosenguer.
Sa voix se perd dans l'opéra comique, il y des contes d'essai et tout ça, qui ne sont pas spectaculaires, mais la tradition des contrutes légers va se maintenir, puisque beaucoup plus tard, en 1862, Bizet, dans Les Pêcheurs de Perles, il n'écrit pas le contrut à la fin de la cavatine du ténor, mais c'est un solo de cor anglais. Bon, très vite, on a pris l'habitude que ce soit le chanteur qui redouble la phrase, mais pianissimo. Et on retrouve Michel Cadieux
dans la romance de Nadir.
Michel Cadieux, dans la conversation, il appelait ça « c'est ma mixte ».
C'est ce qu'il vous disait.
C'est vraiment un son qui mélange poitrine et tête, mais d'une extraordinaire beauté. Oui. Alors, donc, arrivons à la douceur dans l'opéra italien, c'est Bellini. Donc, Bellini qui prend la relève de Rossini en faisant tout le contraire. Bellini, c'est la douceur. Et il était avec un ténor merveilleux, Rubini. Rubini qui était la tendresse, la beauté légère. C'était pas une grande voix, mais il faisait pleurer Chopin. Et avec quand même des contre-rets, des contre-rets, des ut dièses. Il y avait plus d'ut dièses que d'ut dans les opéras de Bellini.
Oui, mais si vous avez trouvé un exemple d'un contre-ret de 1827.
Oui, le premier opéra qu'a mis Bellini en honneur, c'est le pirate en 1827. Et là, la cavatine d'entrée du ténor, mais les ténors sont toujours les malheureux qui vont au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est le romantisme, déjà. C'est plus du tout le bel canto. Mmh. Mais c'est toujours du bien chanté, sans faire de jeu de mots sur la phrase. Et là, il y a un contre-ré pour terminer son air. C'est pas Rubini que je peux vous passer. Fisichella, qui a été un grand spécialiste de ses rôles, avec des aigus très beaux. Et ça, c'était sur scène où je l'ai vu. C'est pas l'enregistrement que j'ai vu moi, mais enfin, oui. Je l'ai vu chanter ça sur scène, avec des contre-rets qui étaient quelque chose. Oui, là, on voit qu'un contre-ré à pleine voix, c'est quand même un son qui est dans la tête avec un pourcentage de poitrine pour garder la virilité, mais ça s'entend, ce mélange des registres. Alors, grand spécialiste du répertoire de Bellini, on retourne à Alfredo Kraus. Alfredo Kraus qui avait une rigueur dans la vie et dans le chant, un merveilleux homme, un merveilleux ténor, et il a chanté tous les opéras de Bellini. Donc, on va écouter un contre-ré également en douceur dans la somnambule. Alors, le dernier opéra de Bellini, ce sera Les Puritains, créé à Paris. Même si à Paris, les autres gueulent, on va en parler à l'instant, c'est toujours la douceur, la délicatesse, les contre dièse, contre fa, même qu'on va entendre.
Il y a de la surenchère.
Donc, on va écouter l'air d'entrée, là on parle, Lauri Volpi. Il faut en parler, parce que, chose curieuse, Caruso n'était pas spécialiste des contrutes, et les successeurs de Caruso non plus. sauf Lord Volpi, qui se considérait comme l'égal de Dieu. C'était la modestie attitrée. Hein. On l'écoute dans l'air d'entrée des puritains à Teocara.
Ici, bellora, ici, bellora, se rammento.
Voilà. Et donc, Alfredo Kraus, qui était le grand dernier spécialiste des puritains, alors Dodiez, Ray et tout ça.
Et on a même sur cette partition un contre-fa.
Un contre-fa, oui. Alors presque personne ne fait plus aujourd'hui le contre-fa. Même Kraus refusait de le faire en voix de tête. Il avait peur que ce soit ridicule. Je lui dis, mais je vais faire une annonce sur ça. Non, je veux pas. Et on a trouvé un ténor qui était un élève de Gilly, qui, lui, arrivait réellement sur scène. Parce que la majeure partie des choses que je vous fais entendre, c'est pris sur scène. C'est pas les trafics de studio. En studio, aujourd'hui, Tino Rossi aurait chanté Othello. Non. Donc c'est sur scène, Matteo, avec ce contre-fa réel en public. Voilà, là, c'est réellement sur scène, parce que bon, il y a les ténors célèbres comme ça, qui l'ont enregistré, mais en studio, un petit son comme ça, et puis on a recollé, on a amplifié, on a fait un montage. Bon, on ne parle pas de ça, on parle des vrais qui l'ont chanté sur scène. Et Matteucci doit être pratiquement le seul. Lauri Volpi l'a enregistré, mais un demi-ton plus bas. Donc, on l'oublie. Enfin, faut le faire. Alors donc, je ne vous ai pas parlé de Donizetti. Ben Donizetti monte en marche après les premiers succès de Bellini. Et parce que une dizaine ou une quinzaine.
Ça veut dire que c'est des compositeurs qui pensent que, en effet, faire des contrutes, des contrerets, ça remporte du succès.
Ah oui, bien sûr. Oui. Par le public, Rubini, c'était des succès. Sauf quand il essayait de prendre le voyage trop dramatique. Il se faisait chahuter.
Oui.
Donc c'était réellement, disons, un Tino Rossi de l'opéra. Mm. Mais avec le charme et Chopin. Il faisait pleurer Chopin. Donc Rubini, c'était vraiment quelque chose. Hein. Mais Donizetti a écrit beaucoup du très bémol et tout ça, mais jamais en perspective de dim boum boum à la fin d'un air. Donc je ne vous en ai pas mis, mais je reprends Donizetti qui arrive à Paris en 39-40. Il avait loupé une place en Italie. Il arrive et à Paris, ça commence à gueuler. Donc il écrit des opéras pour la France et pour ténor avec des bonnes notes. Et il commence à écrire La Favorite, dont on a déjà entendu un extrait, pour Dupré, qui est l'autre ténor, un rival de...
Oui, qui était un rival d'Hanovre-Dury, alors.
Qui faisait des notes plus corsées. Ah, si oui, puisqu'on a écouté les Hauts-Arts dans Guillaume Tell, Adolphe Loury avait des aigus très très brillants, mais qui étaient un peu en grâce. Adolphe Loury chantait « Aux armes, aux armes !» Et Dupré est arrivé en faisant « Aux armes, aux armes !» Donc ça a été une transformation complète. Et quand Donizetti est arrivé à Paris, Adolphe Loury était mort. On dit qu'il s'est suicidé, bon, c'est autre chose, devant le succès de
Dupré.
Donc c'était Dupré qui faisait tout ça. Et il va écrire La Favorite, donc pour une voix robuste. Alors, il y a deux airs, il y en a un avec des do dièses et un autre avec seulement des do, si j'ose dire. Alors, écoutons l'air d'entrée avec une dièse. On écoute Anzani et après ça un autre, je vous en parlerai.
Fais-le toujours, toujours.
Et presque 50 ans plus tard, un ténor qui était le rival de Corelli, Franco Bonizzoli, bon, lui, il rajoutait des dièses, des ré partout où il pouvait, au milieu de l'air.
Même hors de la partition.
Bon, ben, enfin, c'était un type formidable. Écoutons-le dans la fin du même air. À la fin de l'air, il fait un second do dièse, comme ça, tout seul dans le vide.
Present in
C'est un peu comme un bis d'une note, en quelque sorte.
Bon, ben, bon, on peut sourire, mais il faut le faire, car la note est magnifique. Bon, c'est peut-être pas du meilleur goût pour évoquer la Vierge qui est sa fiancée.
Oui, c'est un peu la mode des trois ténors avant l'heure, en quelque sorte.
Bah, les trois ténors, on ne peut pas en parler dans une émission sur le contrut, puisqu'il n'avait pas de contrut. Hein.
Ah, il n'a pas du tout ?
Non, la Carrera, ça ne l'a jamais eu. Domingo, je ne pense pas non plus. Immense artiste.
Pavarotti l'avait.
Immense artiste, Domingo, pas aujourd'hui où il chante les basses, c'est de la comédie et où il se rajeunit, c'est n'importe quoi. Domingo a été un grand ténor des années 70, incontestablement 70 et un peu après quand même. Mais je pense que sur scène, un contrut, je pense qu'il n'en a jamais donné. Alors au studio, il en a fait 150, mais au studio, on fait ce qu'on peut. Hein. Ça l'a quand même, voilà. Et le troisième, Pavarotti. Pavarotti, au moment des trois ténors, il y avait longtemps qu'il n'avait plus de contrut. Alors, il l'avait eu jusqu'à 30 ans. On a quand même l'air aux neuf contrutes qu'a écrit Donizetti dans la fille du régiment. Alors là, il y a une histoire un peu spéciale. Et il y avait un chanteur à l'opéra qui était un baryton de troisième classe qui a été influencé par Gilbert Dupré dans le parti immédiatement et qui s'est mis à monter, à grimper et à pousser des huttes à pleine voix. Et Donizetti lui a écrit cette air avec 8 ou 9 contrutes et le malheureux, il a fait ça 1 an ou 2, il est retourné au baryton avec une voix complètement brisée. Alors, c'est l'air aux 9 contrutes par Pavarotti quand même. Propagande invraisemblable. Un ténor qui a 30 ans a perdu son contrut et que ça ne compense pas par un grave célèbre. En disque, tout ce qu'on veut en disque. Sorti de là, écrire comme dans Wikipédia que c'était le plus grand ténor du siècle, faut pas se foutre du monde. Hein. Non, ça c'est exagéré. Mais enfin, un type charmant, très très bien, et qui vendait assez cher sa peau, mais il payait content.
Vous préférez Vanzo, par exemple.
J'ai entendu faire des canards plus d'une fois. Hein. Mais alors, pour donner un exemple, un récital à Marseille, je l'avais invité. Bon, il chante et il canarde « Canona e mobile ». Il canarde si naturel. Bon, à la fin du concert, il avait prévu de chanter seulement une demi-heure pour 4000 francs. C'était beaucoup à l'époque. Il s'adresse au public et dit « Je vous ai volé tout à l'heure, j'ai raté la note, je vais vous rechanter le même air ». Et il l'a chanté sans canard. Quand on a un nom aussi célèbre qu'on canarde et qu'on risque de recommencer, chapeau quand même.
Ouais, bel esprit, ouais.
Il faut le faire. Hein. Bon, mais enfin, le plus grand ténor du siècle, il ne faut pas se foutre du monde. Hein. Donc, ce sont des ténors qui forment cette nouvelle équipe pour chanter. Donc, Rubini, on en a parlé. C'était donc le ténor surtout de Bellini et de certains Donizetti. Adolphe Loury, qui a créé Guillaume Tell, qui a créé les opéras de Meyerbeer, on y arrive. Et puis alors, donc, il a été supplanté par Gilbert Dupré. Un tout petit ténor à 1m60, mais un garçon musicien, cultivé, un garçon bien. Le public qui commençait à aimer les grandes voix s'est un peu lassé d'Adolphe Loury. Donc, Berlioz n'était pas un amateur d'opéra. Il a quand même écrit pour Dupré sans Benvenuto Cellini, mais avec Alain Vanzo, sûrement le plus grand ténor français des 40 dernières années du siècle. Et il y a un ut, il le fait, qui est magnifique, mais sans en tirer un grand parti.
Oui, c'est cette idée donc avec Berlioz que le contrut est une note comme les autres.
Oui, un peu, oui, oui. Ouais. Alors là, bon, puisqu'il sent que le contrut a du succès, il en met, mais c'est pas une fadère, c'est pas un truc où on applaudit après. Mmh. Je l'ai vu trop, oh, qu'est-ce que je dis trop, quatre fois, j'ai vu 7 ou 8 fois dans le rôle, Vanzo était splendide, mais c'est pas le contrut à l'avant-scène comme ça. C'est un contrut qui passe, il y a un contrut qui fait un lutte, qui est puissant, qui est très beau, mais voilà. Et après ça, Berlioz, nettement, n'aimera pas les chanteurs et les ténors à contrut. Hein. Bon, alors, surtout les ténors à contrut, c'est Meyerbeer. Qui arrive à Paris en 1829-1830 et qui va constituer le grand opéra sur les bases scéniques de Rossini et tout ça, et qui va écrire des heures de ténor, pas que crée Adolphe Loury, le tendre, et que reprendra Gilbert Dupré. Alors, le premier opéra qu'il donne à Paris, c'est Robert le Diable. Alors là, il y a une Sicilienne, et puis, bam ! Le fameux Escalaïs, qui est écoutons-le dans la Sicilienne. Et alors, le grand succès de Meyerbeer, c'est naturellement les Huguenots. Alors, avec les défilés, tout ça, quand on joue les Huguenots aujourd'hui, on peut en supprimer une heure, mais qu'ils devaient faire pour plaire au public de l'époque. Le grand spectacle, hein, et le rôle du ténor, donc, créé par Adolphe Loury, et qui sera repris avec plus de succès par Dupré, c'est quelque chose à se farcir. Hein. Par exemple, à la fin d'un des deux premiers airs d'entrée, il y a une vocaliste qui est, bon, je ne peux pas le chanter là-haut, mais la vocaliste fait do, do, si, la, do, si, sur le si, la, fa, la, sur le mi, sol, fa, ré. Et les ténors font do, do, trois quarts d'heure, si, la, do, si, sol. Bon, naturellement, quand on voit un do écrit, le ténor se précipite dessus, Il faut écouter là. Écoutons un russe, les méchefs, qui nous fait cette une très 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 allongée, ça a de la gueule. Et longtemps après, dans Le Prophète, en 1849, Roi du Ciel, il nous flanque aussi un ut que nous allons forcément écouter par Escalaïs, un ut pas gratiné. Hein.
C'était donc le chapitre Meyerbeer.
Ah, il n'a pas fini, car Meyerbeer va en Allemagne pour une quinzaine d'années.
Et il vient avec ses contrutes.
Il revient terminer sa vie à Paris. Ah, oui. Et en 1864, juste avant de mourir, il n'assistera même pas à la création et à l'Africaine. Il n'a pas écrit le ré bémol que nous allons entendre par Tony Poncet, mais c'est tellement chouette qu'on l'écoute quand même.
Reçois-moi dans ton sein.
Vous dites Roland Massini, il n'a pas écrit le ré bémol, mais ça veut dire que c'est Poncet qui l'a ajouté. Ah d'accord, oui. Ok, donc fantaisie d'interprète. Ah
bah, dans tout ce qu'on écoute un peu, il y a beaucoup de notes ajoutées. Hein. Oui. J'ai même pas toujours réouvert les partitions pour vérifier, mais enfin bon, c'est le résultat qui compte. Hein. Alors bon, en fait, écrire des contrutes, c'était pratiquement terminé en 1840 avec Donizetti.
Oui,
Verdi arrive et va détester le luth.
Ouais, c'est ça.
Donc, il n'en écrit pratiquement pas. Il en écrit un, mais c'est parce que c'est pour un opéra chanté en France. Alors, il sait qu'à Paris, on aime les contrutes de pleine voix. Il prend donc un ancien opéra italien, Il Lombardi, qui va devenir Jérusalem. Il abaisse la cavité du ténor pour lui permettre de faire un saut de sixte et aller dans l'aigu. Nous allons réentendre notre grand Vanzani. Vanzani, il disait, comme il chantait pas en mesure, il disait au chef d'orchestre, « Maître, faites comme moi, je ne m'occupe absolument pas de vous. » Bon, donc, dans Jérusalem, il fait lutte et cri, et il en rajoute un autre à la fin de l'air, naturellement.
Je veux encore te voir.
Alors, si Verdi n'a pas vraiment écrit d'autres huttes tenues, parce qu'il y a des huttes, poum, qui passent, c'est pas important, même dans Otello, mais ce ne sont pas des contre-huttes fameuses. Les chanteurs de Verdi se sont chargés de mettre beaucoup de contre-huttes dans la voiture. Pour le Trouvert, nous avons eu déjà des exemples, mais il y en a partout.
Dans Traviata aussi.
Oui, dans Traviata aussi, oui. Alors, il y a une cabale, c'est-à-dire le petit refrain rapide qu'on chante après l'air principal du ténor, qu'on ne chantait plus d'ailleurs. Il a été restitué en 1947 par le ténor russe Kozlovski. À la fin de la cabalette, on grimpe au contre-hutte. Alors, on a le choix, on se pose la question, encore Alfredo Kraus, que j'ai vu sur scène le faire, qui rentrait en courant en coulisses en tenant son hutte, ou Kozlovski. Bon, on va voir. Kozlovski, alors lui, il fait aussi une chose que faisait Kraus, mais là, en russe, c'est vraiment stupéfiant. Il y a, lorsque Violetta chante son grand air à la fin du premier acte, il y a en coulisses Alfredo qui lui rappelle son amour qu'il vient de déclarer, et Verdi reprend le thème de la déclaration d'amour. Mais comme Verdi n'aime pas les contre-huttes, il abaisse ça. Et bien Kozlovski, il le rechante dans le ton avec un ut de 3h30 qu'il faut quand même écouter. Donc Kozlovski était vraiment quelqu'un de formidable, qui chantait tout. Il chantait Lakmé et Lohengrin. Il a encore chanté sur scène à 85 ans. Il était éduqué pendant la Russie avant la Révolution. Il a gardé la manière de chanter qu'on lui a apprise en 1914-1915. Voilà, bon. Alors, toujours pour les ajouts, il y en a qui sont drôles. Bolizoli, celui dont on vient entendre Lune dièse, qui se baladait tout seul dans la nature. Alors lui, il rajoute des contre-raies, mais vraiment des endroits complètement saugrenus. Il y a dans les Vêpres siciliennes une toute petite cadence Dorédo, ta-ta-ta-ta. Bien Dorédo, c'est celui de... Bon, c'est très court, on l'écoute quand même pour s'amuser. Et alors, toujours dans Verdi, quand un air, un duo, par exemple, un duo avec la soprano, si la soprano se termine par ut, théoriquement, le ténor sol, do, ben, le ténor fait sol, do, et le do aigu à l'unisson avec la soprano. Alors ça, il y en a 50. Alors, c'est l'occasion quand même d'écouter Carlo Bergonzi, qui n'était pas un spécialiste du contre-ut, mais quand même, là, il est avec Genscher. Genscher, merveilleuse cantatrice, qui a été victime de la mafia de Meneghini et du directeur de EMI. Bon, on l'appelle la reine des pirates. Elle a une abondante discographie qui est uniquement prise sur scène.
Et en France, on a des cas
alors
comme
en France,
ça
oui. Ouais. Il y a des contre-huttes qu'on rajoute comme ça. Bon, écrit, il y en a quelques-uns, on a entendu Faust, mais il n'y en a pas tellement. D'ailleurs, même le contre-huttes de Faust, on va y revenir dans 3 minutes. Comment est-ce qu'on le chantait à l'époque de Gounod? Certainement en voix légère. Mais alors là, José Luccioli, cet immense ténor corse, encore plus immense que Vesali, je ne sais pas. On est dans les cieux avec la Corse. Le Montecinto, il ne monte pas très haut, mais enfin quand même. Et Luccioli, je l'ai entendu faire beaucoup de vues sur scène, mais Il n'y a rien dans les enregistrements de studio. Oui, il y a le contrut de Bohème et tout ça. Enfin, c'est pas caractéristique, mais il a rajouté pas mal dans Roméo, dans Carmen. Et alors, dans Carmen, comme il n'y a pas moyen de faire un vrai ut, il le chante au-dessus des chœurs à la fin du second acte. La liberté, la liberté! Et ça, je l'ai vu 32 fois dans le rôle. J'ai eu 32 ut à faire trembler le lustre.
Vous allez finir par nous faire croire que les Allemands ne savent pas chanter le contrut, il n'y en a pas eu depuis le début.
Bah oui, on est obligé de constater. Peut-être qu'il y a des cadences ajoutées dans le répertoire léger allemand, flottant et tout ça, mais enfin, qui n'ont pas acquis la célébrité. Wagner, donc, apparemment, n'aimait pas les contrutes. Il y en a un seul dans toute la production de Wagner, dans les 16 heures de tétralogie, à la fin du Crépuscule des Dieux, on a quand même un contrut.
Ah, il est quand même à la fin, donc il
a réellement écrit. Bon,
place stratégique.
On fait ou non un point d'orgue, selon qu'on puisse. Mais alors, les ténors allemands, j'en ai 50 dans ma collection, je les ai bien cherchés, il n'y a pas de contrutes. Ou s'il y a un contrut écrit, ils ne le feront pas, ils s'arrêtent aussi. Et les grands chanteurs germaniques, disons, allemands, autrichiens, et genre, ils vont jusqu'aussi, peut-être en pleine voix. Ils ne mixent pas bien forcément la voix vers le fa dièse sol, mais ils s'arrêtent tous aussi. Même les très grands, comme Slezak, c'était le Caruso allemand-autrichien, ils s'arrêtent là. Alors, préservons ce contrut du Crépuscule des Dieux par un des deux grands Wagneriens de l'entre-deux-guerres, Max Lorenz, qui n'était pas seulement un chanteur, comme un petit peu Melchior. Donc, écoutons son ut unique à la fin du Crépuscule. C'est ce que c'est, mais enfin...
C'est là.
Dans notre causerie.
On ne peut pas nier.
On aura quand même un contrut allemand.
Et dans l'opérette...
Ah oui, alors c'est l'opérette, c'est le contraire de Wagner, naturellement. Dans l'opérette, il y a beaucoup de contrutes qui sont en général à des personnages comiques. Papa, qui font de la petite voix et tout ça. Bon, c'est pas forcément spectaculaire. On pourrait écouter Pujol, Victor Pujol, qui avait fait 3 ans de comédie française avant de se dédier au chant, quand même. C'est un grand monsieur. Bon... Pourquoi pas?
Entre nous, c'est ce qu'on appelle le secret, le secret.